5. Je descendis la colline, lentement, car mes jambes tremblaient. Que dis-je ? Mon esprit tremblait. C'est en gravissant les marches de ma véranda que je m'aperçus que j'avais faim. En vérité, j'étais affamé. Kradar était là pour m'accueillir, sans me faire la fête à laquelle je m'attendais. Elle remua la queue, sautilla une ou deux fois et frotta sa truffe contre ma cuisse avant de retourner se coucher sur son tapis. Je m'aperçus que je m'attendais à des débordements de joie car j'avais l'impression d'être parti longtemps. En réalité, je m'étais absenté moins de 3 heures. Mais un tas de choses s'étaient produites durant ces 3 heures. Des choses qui changent une vie. Je repensais à Scrooge, disant, dans un conte de Noël, « Les esprits ont réalisé tout ça en une seule nuit ». Il y avait un reste de pain de viande dans le frigo, et je me confectionnais 2 épais sandwichs en forçant sur le ketchup. J'avais besoin de carburant, car ma journée ne faisait que commencer. J'avais un tas de trucs à préparer pour le lendemain. Je ne retournerais pas au lycée, et en rentrant de son séminaire, mon père trouverait sans doute, certainement, une maison vide. Je voulais essayer de chercher ce cadran solaire dont parlait M. Boditch, car je ne doutais plus de son existence, et je ne doutais plus qu'il était capable d'inverser la marche du temps pour cette vieille chienne qui ronflait sur son tapis dans le salon. En revanche, j'étais moins sûr de réussir à lui faire descendre cet escalier en colimaçon, et je ne savais absolument pas comment elle pourrait parcourir les 50, 70, 100 kilomètres jusqu'à la ville. Je n'étais sûr que d'une chose, je ne pouvais plus me permettre d'attendre. 6. Je réfléchis en mangeant mes sandwichs. Si je décidais de m'absenter en emmenant Radar, je devais créer une fausse piste qui conduirait dans une direction opposée à la maison de M. Boditch. Une idée me vint en allant dans le garage, et je me dis qu'elle pourrait être utile. Il le fallait. Je pris la brouette de mon père et un bonus. Sur une des étagères se trouvait un sac d'hydroxyde de calcium, plus communément appelé chaux éteinte. Pourquoi mon père avait-il ça chez lui? Vous l'avez deviné, les cafards. Il y en avait dans notre sous-sol et dans le garage. Je déposais le sac dans la brouette, retournais dans la maison et montrais sa laisse à Radar. « Si je t'emmène en haut de la colline, tu seras sage ?» Son regard m'assura que oui. Alors, je la pris en laisse et on marcha jusqu'au 1 Sycamore Street, moi poussant la brouette et elle avançant à ma hauteur. Madame Richland avait repris son poste et je m'attendais presque à ce qu'elle me demande la cause de tout ce vacarme un peu plus tôt. Mais non. Elle voulut juste savoir si je venais effectuer d'autres travaux dans la maison. « Oui, dis-je. »
« Tu es bien gentil de faire ça. J'imagine que sa propriété va être mise en vente, hein ?» Peut-être que le notaire chargé de l'héritage te paiera, mais à ta place, je n'y compterai pas trop. Ces gens-là sont radins. J'espère que les nouveaux propriétaires ne raseront pas la maison. Elle est beaucoup plus belle maintenant. Tu sais qui a hérité ?
Je répondis que je l'ignorais.
Si jamais tu apprends combien ils en veulent, dis-le-moi. On envisage de vendre, nous aussi.
Ce « nous » suggérait l'existence d'un monsieur Richland ? Comment savoir ? Je promis de la tenir informée, jamais de la vie, et fis le tour de la maison en poussant la brouette, la laisse de Radar passée autour de mon poignet. Elle marchait bien, mais ce n'était pas un long trajet. Parcourir des dizaines de kilomètres jusqu'à la cité abandonnée, elle n'y arriverait jamais. Radar était plus calme cette fois, mais dès que je la libérais, elle fonça droit vers le canapé-lit dans le salon, le renifla d'un bout à l'autre et se coucha à côté. Après lui avoir apporté un bol d'eau, j'allais dans le cabanon avec le sac de chaux. Je versais le contenu sur les restes du cafard géant et regardais, fasciné, le processus de décomposition s'accélérer. Dans un sifflement accompagné de petites bulles, de la vapeur s'échappait des restes qui ne seraient bientôt plus qu'une flaque de chaux visqueuse sur le sol. Je récupérais le revolver, le rapportais dans la maison et le rangeais dans le coffre. J'avisais 2 pépites qui avaient roulé dans un coin de la chambre et les déposais dans le seau avec les autres. Le temps que je redescende, Radar dormait comme une souche. «
Tant mieux, me dis-je.
Dors autant que tu peux, car demain tu vas avoir une journée bien remplie, ma vieille. » Pour moi, celle-ci était déjà bien remplie, et ça aussi, c'était une bonne chose. Certes, cela ne m'empêchait pas de penser à l'autre monde, les coquelicots rouges qui flanquaient le chemin, la femme aux chaussures presque sans visage, les tours de verre de la cité. Mais être occupé m'évitait certainement de subir le contre-coup de l'affrontement avec Christopher Paulet, car il s'en était fallu de peu, de très peu. Dans sa recherche de l'or, ce petit salopard ne s'était pas intéressé aux piles de livres et de magazines alignées dans le couloir entre la cuisine et la porte de derrière. Négligeant les livres, moi aussi, je passais une heure à transporter dans le cabanon, grâce à la brouette, des paquets de magazines, heureusement bien ficelés. J'en déposais certains sur les restes du cafard, mais la plupart, je les empilais près du puits des mondes. La prochaine fois que je descendrai, que l'on descendrait, je disposerai les magazines sur les planches pour essayer de dissimuler totalement l'ouverture. Cela étant fait, je retournais dans la maison pour réveiller Radar. Je lui donnais une gourmandise provenant du cellier et la ramenais chez moi. Il fallait que je pense à emporter son singe Queener. Elle le réclamerait peut-être une fois qu'on serait arrivé à destination. À condition, évidemment, qu'elle ne tombe pas dans l'escalier et ne m'entraîne pas avec elle. Si toutefois, elle parvenait à descendre. De retour chez moi, je fourrai le calibre 22 et le portefeuille de Paulet dans mon sac à dos avec d'autres affaires. Pas grand-chose pour le moment, je finirai de le remplir le lendemain dans le cellier de M. Boditch. Après quoi, je m'installai pour écrire à mon père. J'avais envie de repousser cette tâche, mais je ne pouvais pas me le permettre. Ce n'était pas une lettre facile à rédiger. Cher papa, tu vas trouver une maison vide en rentrant, car je suis parti à Chicago avec Radar. J'ai déniché sur Internet quelqu'un qui obtient des résultats incroyables avec des vieux chiens à qui il redonne vitalité et santé. J'ai entendu parler de ce type depuis un certain temps déjà, mais je ne voulais pas te le dire, car je connais ton opinion sur les remèdes miracles. C'est peut-être bidon, mais je peux me permettre de dépenser $750 sans problème grâce à mon héritage. Je ne te demande pas de ne pas t'inquiéter, car tu t'inquiéteras forcément. En revanche, je te demande, s'il te plaît, de ne pas essayer de combattre ton inquiétude en buvant un verre. Si à mon retour, je découvre que tu as recommencé à picoler, j'aurai le cœur brisé. N'essaie pas de m'appeler, car je vais éteindre mon téléphone. Allumé ou éteint, ça ne changeait rien là où j'allais. Si tout se passe bien, je rentrerai avec un chien tout neuf. Crois-moi, papa, je sais ce que je fais. Je t'aime, Charlie. J'espérais que je savais ce que je faisais. Je glissais le mot dans une enveloppe sur laquelle j'écrivis papa et la laissai sur la table de la cuisine. Puis j'ouvris mon ordinateur et écrivis un mail à desilvius@ilviewi.edu et je racontai plus ou moins la même chose. Je songeais que si Madame S. s'était trouvée à côté de moi à cet instant, elle aurait flairé l'odeur de l'école buissonnière. Je programmais l'envoi pour qu'elle reçoive ce mail sur son ordinateur au bureau le jeudi après-midi. 2 jours d'absence injustifiée, ça pouvait passer, mais 3 sans doute pas. Je voulais que mon père reste le plus longtemps possible là-bas, à son séminaire. Je pouvais toujours espérer que Madame S. ne l'appelle pas en recevant mon message, mais je savais qu'elle le ferait très certainement. Et de toute façon, il serait peut-être déjà sur le chemin du retour. Mon véritable objectif, c'était de faire croire au plus grand nombre de personnes que j'étais parti à Chicago. Dans cette optique, j'appelais le poste de police pour parler à l'inspecteur Gleason. Il était là, et je lui demandais s'ils avaient des pistes concernant le cambriolage du 1 Sycamore Street. « Je vous appelle aujourd'hui parce que demain j'emmène la chienne de M. Boditch à Chicago. J'ai trouvé quelqu'un qui fait des merveilles avec les vieux chiens. » Gleason me répondit qu'il n'y avait rien de nouveau, comme je m'y attendais. Je m'étais occupé personnellement du malfaiteur. Du moins, je l'espérais. Gleason me souhaita bonne chance avec le vieux Kleps. Une chance que je ne voulais pas laisser filer. 7. Ce soir-là, je glissai 3 des nouveaux comprimés dans la bouffe de radar. Je lui en donnerai 3 autres le lendemain. Il n'en restait plus beaucoup dans le flacon, et c'était peut-être mieux ainsi. Je ne pouvais pas l'affirmer, mais je devinais que c'était des sortes d'enfées pour chiens. Autrement dit, il raccourcissait sa durée de vie en même temps qu'il lui redonnait du tonus. Il suffisait que je lui fasse descendre l'escalier, et ensuite... Ensuite, je ne savais pas. Mon téléphone fonctionnait de nouveau, mais j'avais dû effectuer un reset complet pour qu'il indique la bonne heure. Et sur le coup de 7 heures, il sonna. Papa s'afficha sur l'écran. J'allumai la télé et montai un peu le son avant de répondre.
Salut Charlie, tout se passe bien ?
Impec. Alors, tu grimpes dans les arbres ? Il rit.
Non, il pleut ici. En revanche, pas mal d'esprit d'équipe et d'enthousiasme. Les agents d'assurance en folie. Qu'est-ce que tu regardes ?
Sport Center.
La chienne va bien ?
Radar ? Elle décolla la tête du tapis. Oui, ça va.
Elle continue à bien manger ?
Elle a même léché sa gamelle ce soir.
À la bonne heure.
On bavarda encore un peu. Il ne paraissait pas inquiet, et j'en déduisis que je réussissais à donner le change, ce qui me rendait fier et honteux en même temps.
« Je te rappellerai demain soir, si tu veux, »
dit-il. « Il se peut que je sorte manger des burgers et faire un mini-golf avec des potes. »«
Et des filles ?»«
Possible. Je t'appellerai s'il se passe un truc, genre si la maison prend feu. »«
Ça marche. Dors bien, Chip. »«
Toi aussi. » D'où j'étais assis, j'apercevais l'enveloppe sur la table de la cuisine. Je n'aimais pas mentir à mon père, mais je ne voyais pas d'autre solution. Une situation extraordinaire. J'éteignis la télé et me préparai à aller au lit à 8 heures pour la première fois depuis... toujours. Mais j'avais prévu de me lever tôt. « Plus tôt on commence, plus tôt on a fini », disait ma mère. Certains jours, je ne parvenais pas à visualiser son visage sans regarder sa photo. En revanche, je me souvenais de tous ses petits dictons. L'esprit est une drôle de machine. Je fermai la porte à clé, mais pas parce que j'avais peur de Paulet. Il savait certainement où j'habitais, mais il avait les 2 poignets brisés et j'avais gardé son arme. De plus, il n'avait ni argent ni pièce d'identité. À mon avis, il était déjà en train de faire du stop pour se rendre à Chi, comme il disait, pour essayer de transformer ses 4 pépites d'or en liquide. S'il parvenait à les vendre, il n'en tirerait pas plus de 20 cents pour un dollar, et c'était tant mieux. Génial. Chaque fois que je commençais à avoir pitié de lui, ou à culpabiliser à cause de ce que j'avais fait, je repensais au canon de son arme appuyé contre ma nuque. Et je l'entendais qui me disait de ne pas bouger, que ce serait une mauvaise idée. Enfin, je me réjouissais de ne pas l'avoir tué, c'était déjà ça. Je m'examinais dans le miroir pendant que je me brossais les dents. Je trouvais que je n'avais pas changé, ce qui était plutôt surprenant après tout ce qui s'était passé. Je me rinçais la bouche et en me retournant, je découvris Radar assise sur le seuil de la salle de bain. Je me penchais pour ébouriffer sa fourrure des 2 côtés de son visage. « Tu as envie de partir à l'aventure demain, fifille ?» Elle frappa le sol avec sa queue, puis alla s'allonger au pied de mon lit dans la chambre d'amis. Je vérifiais 2 fois mon réveil pour m'assurer qu'il était bien réglé sur 5 heures et j'éteignis la lumière. Je pensais mettre longtemps à m'endormir après les montagnes russes émotionnelles de cette journée, mais je sombrais presque aussitôt. Je m'interrogeais. Allais-je réellement risquer ma vie et certainement un tas d'emmerdes avec mon père et au lycée pour une vieille chienne qui avait déjà eu, en année canine, une sacrée vie ? La réponse semblait être oui, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait l'aspect merveilleux de la chose, le mystère. J'avais découvert un autre monde. Je voulais voir la ville aux tours vertes et savoir si c'était réellement Oz, habité par un terrible monstre, Gog Magog, et non pas un vulgaire mystificateur qui projetait sa voix à travers un rideau. Je voulais dénicher ce cadran solaire et voir s'il était capable d'accomplir ce qu'affirmait M. Boditch. N'oubliez pas que j'avais 17 ans, l'âge idéal pour les décisions aventureuses et stupides. Mais avant tout, il y avait la chienne. Je l'aimais, voyez-vous, et je ne voulais pas la laisser partir. Je roulais sur le côté et m'endormis.